Winnet en direct
avec JC,
Mono et Patricia.
Juste à se connecter avec notre cœur et c'est tout.
Radio X.
Renaud, are you ready? C'est parti!
Renaud Labrecque.
Je suis pas capable d'accepter ça.
Je prends ça avec sérieux. On va agir rapidement.
Ce gars-là gère une municipalité de 600 habitants puis il pense qu'il serait capable de gérer une ville.
Faut se prendre en main.
Le monde municipal avec Renaud Labrecque.
Mr. Labrecque, comment ça va?
Monsieur Ouellet, Pat et Max, bon mercredi.
Hola. Oui, bon mercredi.
Hola, hola.
Ah, fait que c'est cette semaine que tu nous annonces qu'il n'y a plus d'actualité municipale, tout est réglé.
Non, ça va malheureusement continuer à perdurer dans le temps. Mais je prends quand même 30 secondes, ma bonne nouvelle, parce que j'en ai pas fait la semaine passée, mais c'est une bonne nouvelle qui date de quelques semaines, mais on tend à l'oublier, à le rappeler.
On prend celle qui passe, même s'il date de 3 semaines.
Celle qui passe, mais c'est pas du municipal, c'est de la vie courante. J'ai oublié de remercier François, féliciter François Gariépi par rapport à la naissance d'un nouveau-né. Oh. Donc, félicitations à lui. Je ne l'avais pas fait sur Messenger. Je ne jugeais pas bon de le faire sur Messenger. Donc, je voulais prendre un petit 20 secondes pour le dire.
Bon, c'est pas une bonne nouvelle qui touche la politique, mais non. on les prend toutes quand même.
Ben, on va avoir un contribuable de plus dans quelques années.
Yes, ouais. Un de plus à siphonner. All right.
Yes, sir.
on part avec quoi? Allons-y avec le code du bâtiment. Et ça, on a parlé de ça hier. Ça n'a aucun sens.
Effectivement, j'ai entendu votre entrevue hier, puis je l'avais déjà noté, mais je voulais revenir pour vous montrer la dame que vous aviez... était excellente, mais c'est absurde au niveau municipal. Il y a plein d'exemples, puis je vais vous en donner rapidement des concrètes. À Thetford Mines, la ville de Thetford, ils ont fait l'acquisition de l'ancien magasin Sept-Lacouis. La ville l'a acheté pour faire une bibliothèque. Mais là, en raison des nouveaux normes du code du bâtiment, même si le bâtiment est là depuis toujours et il tient, bien là, ils doivent le remettre aux normes avec les normes sismiques et tout. Ça va coûter plusieurs millions de dollars. Mais là, présentement, le bâtiment sert à entreposer des voitures de luxe au premier et au deuxième étage, et eux veulent juste mettre des livres et il faut qu'ils le mettent aux normes parce que le bâtiment ne sera pas conforme. C'est totalement ridicule.
On aime ça, hein, se compliquer le train de vie, c'est épouvantable. Puis, j'ai parlé aussi cette semaine, Renaud, là, puis il va falloir peut-être regarder ça, là, de maintenant appliquer les normes qu'on applique dans les villes en campagne rurale. Donc, on parle d'inspecteurs, je suis sérieux, là, OK, des inspecteurs, la CAQ sont en train de regarder ça, là, des inspecteurs qui vont partir, qui vont aller dans le fin fond du rang 8 à Saint-Stanislaus, puis qui vont aller voir une vieille grange croche. Ils vont rentrer chez le monsieur, parce que là, on veut aussi le faire sans mandat. Là. Les inspecteurs débarquent chez vous, vont voir le bâtiment, puis là, vont voir le monsieur de 82 ans, qui évidemment qui est à la retraite, qui n'a plus moyen, puis qui exploite plus sa ferme, puis il dit « Hey, monsieur, votre grange, il faut refaire ça au complet, là. »
Absolument.
C'est fou furieux, Renaud.
Donc. On le voit dans les MRC, c'est ce qu'on appelle des règlements harmonisés, donc pour que tout le monde soit sur la même longueur d'onde au niveau de l'urbanisme et au niveau aussi des nuisances. C'est totalement... en fait, c'est des gens qui cherchent la job. Là,
mais c'est farfelu. Non, mais attends, ils veulent pouvoir se donner le droit de donner des amendes journalières, quotidiennes, 200 piastres par jour tant que tu le fais pas. C'est de l'expropriation, ça, Renaud. Là.
Ben, on se cherche... de la job, on se cherche des moyens d'aller chercher de l'argent. L'exemple à Thetford que j'ai demandé et parlé avec Sept-Lacouis. Puis aussi un exemple très fréquent dans le monde municipal actuellement, la construction de casernes de pompiers. Plusieurs villes, et pour ne pas dire très grosses villes et même des municipalités, construisent des casernes de pompiers. Ces casernes-là sont uniquement pour les pompiers. Ils ne sont pas là en visite libre pour les pompiers. Mais selon le code du bâtiment, ça prend des portes automatiques, des portes larges pour les toilettes, une douche à accès limité pour les personnes en chaise roulante. Ça, il y a plusieurs DG qui m'ont contacté dans les dernières semaines pour me dire...
Attends, j'adore les handicapés, puis il y a du monde vraiment wise là-dedans. Là. Mais il y a combien d'handicapés à mobilité réduite qui travaillent pour les pompiers au Québec?
C'est impossible. Les pompiers se doivent d'être valides, et je ne dis pas que les autres sont invalides, mais doivent être en mesure d'être pompiers. Une personne en chaise roulante ne peut pas. Mais malgré tout, le DG a demandé à l'architecte « Peux-tu enlever ça? » Non. Et l'architecte a fait une plainte au code du bâtiment pour forcer la municipalité à avoir une douche accessible en chaise roulante, une toilette, des portes de rente, des portes larges.
Mais c'est fou!
Il n'y a personne d'autre que des pompiers qui rentrent là. Êtes-vous débile?
Ben oui, c'est débile. On va forcer quelqu'un à mettre des... Puis en passant, quand ça devient public, hein, tu le sais, Renaud, une salle de bain, ça va être 150 000 de plus.
C'est du 150 plus la rampe à l'extérieur, parce que la personne n'a pas un kickflip pour monter les marches. Là. Il va falloir qu'elle aille une rampe. C'est n'importe quoi. On a beau parler, puis vous en parliez en intro, des gens à l'extérieur qu'on ne contrôle pas, les États-Unis et autres, l'Iran, mais on est le propre frein à notre réussite, ouais. C'est-à-dire on s'impose des règles totalement stupides.
Incroyable.
On en ajoute constamment.
Sans arrêt.
C'est débile.
Puis ça, là, c'est carrément une dépense inutile. On a fait travailler des fonctionnaires dans le vide, payés à 150 000 par année pour nous pondre des niaiseries de même qui sont appliquées dans le vide par des inspecteurs qui travaillent dans le vide pour finalement avoir comme résultat que des gens en chaise roulante qui sont pompiers, ça n'existe pas. Tu sais, on a fait travailler votre argent complètement dans le vide.
Ben oui.
Mais
c'est le vivre ensemble, JC.
Mais là, probablement, Renaud, qu'avec ça, on va pouvoir peut-être là, appliquer là, pour être un État reconnu pour l'accessibilité puis l'inclusion de l'UNESCO. Tu sais, une genre de niaiserie de même. Là, ouais.
C'est une caserne de pompiers.
OK. Bon, jason de l'Assomption. Oh, une première
ouais,
à l'Assomption.
On se déplace à l'Assomption, une première en 3 mandats. Ça veut dire 12 ans. Une première en 12 ans. Qu'un élu de l'équipe du maire Nadeau qui vote contre une de ses propositions.
Oh, c'est gros, ça.
Première en 12 ans que quelqu'un ose voter contre le maire Nadeau dans sa propre équipe. Et là-dessus, on va écouter un extrait de M. Olivier Lemieux à Radio-Canada qui, selon lui, essaie de réprimander un peu la ville de Lévis parce qu'il y a des élus à la ville de Lévis qui votent contre certaines propositions du maire Blainé. Ce qui est totalement sain, c'est ce qu'on appelle la démocratie. Mais là, on a des médias nationaux, excuse-moi, qui, eux, promouvoient le, je ne sais pas comment dire, l'autoritarisme ou en fait l'uniformité du vote et que finalement, on parle tout à l'unisson, ce qui est totalement la cause première du fait qu'il n'y a plus de débat au Québec. On écoute.
Va falloir serrer les rangs à Prospérité Lévis parce que là, présentement, il y a des élus qui votent contre des propositions du maire Blainé. Oui, absolument. Et on se défend en disant, regardez, ici, on a permis un vote libre. Wow. On veut que les gens, évidemment, s'expriment librement. Tout ça est bien. Sauf qu'on va devoir expliquer des décisions à la ville et aux citoyens éventuellement. Oui. Et va falloir, pour ça, je pense, avoir des positions fortes et parler d'une seule voix. Oui. Mais c'est normal qu'on prenne la mesure là, de plus en plus du problème parce qu'à Lévis, on développe de moins en moins. Et Alexandre l'a dit, les revenus fonciers, c'est 70-75% des revenus d'une ville. Alors, une ville qui ne se développe pas, c'est une ville qui s'asphyxie financièrement.
Olivier Lemieux, là... Non, mais j'ai plus envie de faire un petit bout sur Olivier Lemieux que sur... Puis on va revenir à ton sujet, inquiète-toi pas, Renaud. Là. Olivier Lemieux, c'est quoi sa job, lui?
Militant,
chroniqueur enligné ou journaliste? Parce que quand il se présente pour parler de la ville, il se présente comme journaliste. Ce que je viens d'entendre là, c'est tout sauf un journaliste.
Non, c'est de l'opinion.
Ça, c'est quelqu'un qui fait de l'opinion. Il fait de la radio d'opinion avec mes taxes, by the way, à la Société d'État. L'autre affaire, ça fait plusieurs personnes qui m'enlignent là-dessus, puis j'haïs ça faire ça. Moi, je déteste ça rentrer dans le personnel, puis dans les familles. Puis des... Mais à un moment donné, il va peut-être falloir qu'on se le dise. Qu'est-ce qu'elle fait dans la vie la conjointe d'Olivier Lemieux? Là?
C'est un très bon filon. Hein? On va limiter ça.
Hein? T'es-tu au courant de ça, Renaud?
Très bien.
Okay.
Très bien.
Ben, t'es pas tout seul. Il y a 3-4 personnes qui m'en parlent. Là. Moi, si j'étais boss de Radio-Canada, je commencerais à me dire que ça... Ça n'a pas de bon sens là, qu'Olivier Lemieux parle comme ça de la ville de Québec puis du transport en commun. Je n'irai pas plus loin. Il va falloir que ça sorte un moment donné. Il va falloir un moment donné qu'on arrête de jouer au cave, M. Lemieux, qui déteste Radio X. Là, on le sait, c'est bien connu dans les cercles élargis des médias. Là. Parce que ce que vous faites présentement, là, c'est carrément des campagnes politiques. Là. Puis vous donnez votre opinion, vous alignez le monde... Et c'est pas ce qu'on s'attend de la Société d'État. Si vous voulez venir faire de l'opinion à Radio X, M. Lemieux, vous êtes bienvenu, by the way. On va la prendre, votre opinion. On ne sera pas d'accord, là. Mais ça commence à être malaisant, là, Olivier Lemieux. Là.
Mais ben, c'est effectivement... Vas-y, Pat, excuse-moi.
Non, mais pourquoi... En fait, je sais pas tout ce que vous savez.
Je te le dirai à la pause.
Donc, mais c'est intriguant. Je fais comment? Ah, ouais, OK. Et pourquoi tout à coup, Lévis et sa map?
Parce que Lévis...
Ça, c'est le point. Hey. Ça, c'est
non,
le
non,
point,
on
Patricia.
On parle bien
là.
Plus de Lévis ces temps-ci qu'on parle. Comme s'il ne se passait rien dans la ville de Québec. Là. Il y a des chantiers partout à grandeur. Mais Lévis is the shit. Là. Tout à coup, là, on parle de Lévis. Et ou toujours en passant d'une manière négative. Là.
Absolument, Patricia. Puis merci d'ouvrir la porte. C'est exactement ce qui se passe. On le voit de semaine en semaine. On a un biais, on est orienté chez Radio-Canada à essayer de rabaisser la ville de Lévis. Et ici, on dit qu'une ville qui ne se développe pas s'asphyxie. C'est faux. En fait, c'est à ça que ça sert l'évaluation foncière. Il y a une mise à jour à chaque 3 ans et on augmente la valeur foncière pour générer plus de revenus et être au niveau de la valeur marchande. Donc, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de développement qu'on ne fait pas plus de revenus. Ça l'aide, bien sûr, mais ce n'est pas la raison numéro un. Et deuxièmement, de dire qu'il n'y a plus de développement à la ville de Lévis, c'est totalement faux. Le moratoire ne touche pas la totalité de la ville, mais des secteurs. Mm-hmm. Et toute proportion gardée, la ville de Lévis a explosé comparativement à la ville de Québec.
Saint-Étienne, c'est épouvantable, ben oui. les nouveaux quartiers.
Mes parents sont encore là, je suis né là. Tout ce qui est passé, le CLSC en haut, ça n'existait pas. C'était des grenouilles dans le temps.
C'est un boisé. Là. Je vous annonce que dans la construction de maisons, je me suis perdu dans ce quartier-là.
Exactement. Donc, c'est la position de JC, je suis un peu d'accord, en fait, très d'accord de dire que c'est orienté, c'est un parti pris, ce qui est dommage.
Et là, on n'est pas dans le journalisme d'information partout.
Que c'est pas normal que des gens votent contre. En fait, c'est totalement normal.
Tu sais, monsieur conflit d'intérêts, il dira ce qu'il veut, là, mais moi, au-delà de ça, là, moi, ce que je trouve problématique, monsieur Lemieux et les autres, c'est comment ça qu'il y a des partis politiques au municipal? C'est quoi la folie? C'est quoi cette folie-là? C'est complètement débile. Au parti municipal, là, vous êtes des individus qui veulent gérer la ville. Vous n'êtes pas là pour faire des soirées de financement de parti, puis des cocktails, puis des ci, puis des ça. Gère les taxes municipales, fais ce que tu peux avec ça, that's it, that's all. Mais ça, visiblement, c'est une vision qui est diamétralement opposée à ce que la majorité de ces gens-là pensent, là. Mais il y a quelque chose vraiment qui ne marche pas. By the way, parlant de Lévis, je peux peut-être l'utiliser, là. Tantôt, on va voir la conseillère Annick Tremblay, justement, qui de temps en temps n'est pas d'accord avec son maire. Moi, je trouve ça très sain, là, mais...
C'est ce qui détonne des médias actuels. On en fait une nouvelle à l'Assomption, la première fois en 12 ans. Et sous l'administration Marchand, c'est jamais arrivé que quelqu'un de son équipe a voté contre lui. Là. Jamais arrivé. Et ça n'arrivera jamais qu'il soit au pouvoir 4, 8, 12 ou 16 ans.
Il va se faire boulier.
Ça arrivera jamais, 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 jamais.
À part de ça, les droits de mutation, les surplus. Ça, c'est le fun, des surplus. Quand tu gères et que tu fais des surplus pendant 8 ans, on peut-tu dire que c'est des surplus encore?
Ben non, c'est une mauvaise administration, en fait, ou une sous-évaluation des revenus. Mais c'était faire un retour rapide sur les fameux surplus à la Ville de Québec. On mentionne avoir fait des surplus majoritairement en raison des droits de mutation, la fameuse taxe de bienvenue. Mais on avait sous-évalué les taxes de bienvenue qui allaient rentrer. Mais on avait aussi passé sous le silence qu'en août 2024, l'administration Marchand avait augmenté les frais de taux de taxes de mutation. Donc, même si on aurait gardé le même nombre de ventes annuellement, on a augmenté le taux de taxation en lien avec le droit de mutation, ce qui allait d'emblée générer plus de revenus. C'est bien sûr, vous avez augmenté, selon la loi, le taux. Mais malgré tout, on vous dit, on en a fait plus, on a fait un surplus. C'est sûr, tu taxes plus.
Hey, mais c'est... Puis oui, ce que tu dis, là, c'est très pertinent. T'sais, il augmente, après ça, il fait le saut. Hey, on a fait des surplus.
Magie.
Mais oui, je sais pas, t'as augmenté. Et l'autre affaire, je suis allé voir, là, pour vrai, depuis la bombe, depuis les dernières années de la bombe jusqu'à aujourd'hui, on remonte à un bout, là. On est rendu dans le 5-6 ans consécutifs. Il y a des surplus de plusieurs dizaines de millions de dollars à chaque année.
Ouais, c'est pas une bonne
gestion, là. De pomper trop d'argent à ton monde systématiquement à chaque année. Puis de là, Renault, à être capable de te faire un fonds de 150, 200 millions parce que tu as trop taxé le monde. C'est pas une bonne gestion, ça. Depuis quand c'est une bonne gestion?
C'est problématique. Les droits de mutation sont plus durs à évaluer, j'en conviens, mais là, ils savaient qu'ils allaient taxer plus. Au-delà de faire des surplus, ce qui est doublement dommageable, c'est l'utilisation des surplus. Qu'est-ce qu'on en fait avec? On fait des pistes cyclables, on fait des choses plutôt que de l'appliquer à la dette ici à la Ville de Québec.
Ou sur les infrastructures.
Exact, ou les infrastructures existantes, effectivement. On l'a mis sur des nouveaux projets encore, puis on a donné des miettes de pain à la dette.
C'est incroyable. Je regarde l'heure, un petit contrat, choisis le plus épicé. Là.
Le un contrat, ben, on va aller tout de suite directement au SEAO, le 95-708, la construction de seuils de ralentissement en pavage, des dos d'onde.
Ah, les
fameux dos d'onde.
J'en avais parlé avec vous. Des vrais termes, hein? On n'est plus capable. C'est tout le temps poétique. Là. C'est des termes dont on ne sait pas trop ce que ça veut dire. Fait qu'on parle de seuil de ralentissement au lieu de dire, dans le jargon que tout le monde comprend, des dos d'onde.
Des dos d'onde.
Ah. Oui, on change le vocabulaire parce qu'on sait très bien que le vrai vocabulaire, personne n'en veut. Fait qu'il faut le changer pour l'amadouer. Construction de seuil de ralentissement, j'en ai parlé avec vous en onde en 2024. J'avais exposé en onde que la compagnie avait soumissionné le dos d'onde à 9 808,4 par dos d'onde pour un contrat en 2024 de 28 dos d'onde, 9 800 chaque. Après en avoir parlé avec vous, à gauche, à droite, avec Jer Alain, le même entrepreneur soudainement a soumissionné en 2025 à 4 994 pour 55 dos d'onde. Il a coupé son prix de moitié malgré l'inflation. C'était assez étrange.
Eh bien.
Et là,
on nous disait avant, attends un peu, là, on nous disait qu'un dodon à 8000, c'était ça le prix, là.
Oui, ben c'est tombé à 4994
en 2025. Ah ben.
Et là, en 2026, l'appel d'offres vient de se terminer. Et on se rappelle, à l'automne dernier, le maire Bruno Marchand, en pleine campagne, avait dit « Je vous fais une promesse de 2 millions. On va installer 400 dodons dans les prochaines années. C'est un mandat de 2 millions. Et le coût de chaque dodon est de 5 000 $ C'est des propos que Jonathan Lavoie à Radio-Canada et Stéphanie Martin ont relayés. 2 millions pour 400 dodons. Normalement, ça valait 5 000. Mais il dit, le maire, la ville a réussi à faire diminuer le prix, initialement estimé à 7 800 et il s'en réjouissait. Et bien là, curieusement, l'appel d'offres, la même compagnie vient de resoumissionner pour 143 dodons à 6 800 le dodon. C'est une augmentation de près de 40%.
On remonte tranquillement. 40...
Exactement. Et là, c'est un contrat de 994 488 pour, en fait, 1 million, là, c'est pas compliqué, 1 million pour 143 dodons. Et là, on avait dit qu'on en ferait 400 pour 2 millions. Je vous le dis, le 2 millions ne sera pas respecté.
On est
40% à côté de la traque. Et on va défoncer, en jargon, le budget. Mais l'administration Marchand va vous dire, ça a respecté des budgets, ouais. On est bon, on est fin.
Ben oui, mais c'est sûr, c'est la stratégie que tu essaies d'expliquer depuis un bout. Là. C'est sûr que si tu budgètes 9 000 pour un dodon, puis tu le fais à 8 000, puis tu sors en te pétant les bretelles. Hein? Est-ce qu'on est arrivé en dessous du budget? La réponse est oui, ouais, mais ça n'a juste pas de bon sens, 9 000 pour un dodon.
Ben c'est oui, ça puis là, on est à 6 800. 6 800 le dodon, c'est 37% de plus que lui avait vendu en campagne, et c'est avant les extras, parce qu'il y aura des extras au dodon. Inquiétez-vous pas.
Ouais, inquiétez-vous pas. Ça, c'est une certitude. Il y aura de l'impôt puis des extras.
C'est une certitude. Puis de la neige en janvier.
C'est ça. Tu sais, à la fameuse phrase, il y a deux certitudes, la mort puis l'impôt. On peut rajouter les dépassements de coûts. Merci, Renaud.
Merci à vous autres. Bon mercredi.
Salut, bye. Renaud Labrec, tout feu, tout flamme, directeur général de Paris-Ville et surtout chroniqueur dans Ouellet en direct. Et chroniqueur Etwell. Il en sort du stock, notre Renaud, c'est l'enfer.
Incroyable. Exceptionnel.
Fou! On s'en va à pause.
Ouellet en direct.
En direct. On revient dans pas long.
Radio X.